La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Aujourd'hui, nous allons reprendre le parcours entrepris il y a bien longtemps. C'était déjà du temps de Lucien Jacquemont que nous avions commencé cette exploration et nous l'avions baptisé à juste titre. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait des titres, des morceaux de jazz et de ce qui se trouve derrière.
Et c'est vous dire que ça fait un moment puisque nous en sommes à la lettre V.
V, nous avions, avant les vacances d'été, laissé cette série à un morceau qui s'appelle Vine Street Ramble, c'est-à-dire faisant référence à la grande artère centrale de Kansas City. Eh bien, de Vine Street, nous allons sauter à un genre d'animal tout à fait particulier.
Oui, puisqu'il s'agit d'une vipère. Ouh là là ! En réalité, Viper, c'est le nom, j'allais dire, argot du fumeur de joint. Et quand on dit drag, ben c'est son voyage, en gros, le voyage du fumeur de joint. Pas forcément d'ailleurs très gay, hein. Non, c'est pas youp-youp, c'est génial, non.
Oui, parce que drag, ça veut dire plutôt traîner que marcher, déjà. D'ailleurs, le slow drag était une danse qui se traînait assez lentement. Et donc, ce voyage que nous allons confier à Fats Waller et à son piano, eh bien, la musique en est assez évocatrice d'un certain climat, vous allez pouvoir apprécier. Voilà, jeunes gens qui nous écoutaient, naturellement, il ne s'agit pas de faire de la pub pour ce genre de
produit
que nous ne pratiquons pas et que nous vous déconseillons formellement d'ailleurs de pratiquer, mais ça n'empêche pas que Fats Waller l'a quand même mis en musique.
Viper's Drag.
Il est bien vu finalement ce voyage par Fats Waller. Mélancolie, euphorie passagère et retour à la mélancolie encore plus grave qu'avant. Je dois dire, c'est presque une leçon Une leçon en musique. Et la lettre V que nous allons maintenant terminer sur quelque chose de très inquiétant nous emmène au voodoo.
Qui est pour nous, bah c'est le vaudou. Alors, c'est vrai que le vaudou est très implanté à la Nouvelle-Orléans parce que on dit toujours que le centre du vaudou, c'est les îles, hein, les Antilles.
Haïti, en particulier.
Haïti. C'est une sorte de religion animiste qui est extrêmement branchée sur tout ce qui est mort, fantôme, qui viennent vous tirer par les pieds, envoûtement, sorcellerie. C'est pas très marrant le vaudou. Hein.
Oui, c'est assez pesant et puis c'est même assez terrifiant. Et puis, vous savez, on peut toujours en causer comme d'un sujet de pendule quand on est à quelques milliers de kilomètres de là. Si vous vous trouvez un jour au milieu, par hasard, d'un truc de ce genre, vous ferez moi le mariole, là, c'est sûr. C'est certain. Mais, naturellement, comme tout ce qui fait peur, le vaudou est devenu également un sujet de caricature. Nous préférerons le voir comme ça pour cette émission pour aujourd'hui. Et cette caricature a été faite par J. Hawkins, avec un petit groupe totalement délirant. Ils ont déliré sur le vaudou d'une manière, finalement, je trouve, assez...
assez festive.
Et assez démystifiante, je trouve, quand même, finalement. Et je vous laisse apprécier. Chick at a kung fu flick and she really was exciting. She had a real dog face, asked me to her place. I said, screaming, that's inviting. When we got there, she said, sit anywhere. So I sat down on a couch. She said, close your eyes, I got a big surprise. The next thing I knew, she started sticking them pins in me. I said, man, that alarmed me. Now it ain't that I'm old-fashioned and I won't go for something new. But baby, please, I ain't no tease. How you like them pins in you? Oh, voodoo.
Le morceau suivant, Wabash Rag, va être interprété par un type un peu mystérieux. On connaît juste son nom de famille en vrai. Son nom d'artiste, c'est Blind Blake. Blind, évidemment, ce qui veut dire qu'il est aveugle. Et on ne connaît même pas la date de sa mort. Voyez
ni d'ailleurs celle de sa naissance, mais on sait qu'il s'appelait Arthur Phelps. Enfin, on espère le savoir.
Voilà, c'est tout. C'est la discrétion même. Et pourtant, il a laissé une trace pas croyable en tant que musicien. Le type qui est discret et finalement dont la qualité musicale se répand partout.
En fait, Blind Blake était du Mississippi. Il est venu à Chicago parce qu'on l'y a appelé pour enregistrer dans une marque pour le public noir qui s'appelait Paramount. Et il a quand même enregistré au moins un disque par mois.
Ce qui est énorme à l'époque. Hein.
Oui, pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'au total, on a une centaine de faces de Blind Blake, le guitariste, puis il a fait aussi pas mal d'accompagnements de vedettes de la marque comme Marinette ou d'autres chanteurs et chanteuses. Mais Blind Blake a eu, par sa manière de jouer de la guitare, qui était vraiment un mélange d'inspiration et de virtuosité tout à fait étonnant, il a eu une grosse influence et sur les chanteurs de blues et sur toute la musique country.
Oui, c'est étonnant parce que c'est un homme qui a fait des emprunts à son, j'allais dire, à sa culture.
En fait, Blind Blake a adapté le ragtime à la guitare, déjà. Et il avait mélangé beaucoup d'influences, y compris d'ailleurs celle des Caraïbes, puisque dans un de ses disques, Blind Blake parle de la musique des Caraïbes comme étant une de
ses composantes.
Absolument. Et pourquoi voyons-nous arriver ce virtuose aveugle si important pour la suite de la musique populaire américaine à la lettre W? Eh bien, parce qu'il va nous jouer
Wabash Rag.
Alors, c'est quoi Wabash, hein? Eh ben, Wabash est un petit bled sans aucune importance, mais qui bizarrement s'est retrouvé être le nom d'une des grandes artères de Chicago, la Wabash Avenue. Et la Wabash Avenue, figurez-vous, elle traverse tout le quartier sud, qui était le quartier de la musique noire, la grande époque de Chicago, avant que tout cela n'émigre à New York sous la pression de ce qu'allait devenir le showbiz. Voici notre virtuose aux prises avec Wabash Rag. D'ailleurs, tout notre rag, ça s'appelle Rag, donc ça dit bien son nom.
South on Wabash Street, everybody you chance to meet, doing that rag, that Wabash rag. They are doing it night and day, it will drive your blues away, doing that rag, that Wabash rag. Every little kid that you meet, in the alley, in the street, doing that rag, that Wabash rag. Wabash Rag. Grab me, mama, hold me tight. Let's mess around the rest of the night. Doing that rag. That Wabash rag. Throwing your hands way up high. Grab me, mama, make me cry. Doing that rag. That Wabash rag. Come from miles around, get on Wabash, break 'em down, doing that rag, that Wabash rag. Everybody set 'em, last time for setting. Doing that rag, that Wabash rag.
C'est curieux d'ailleurs ce mot de Wabash parce qu'il a l'air d'avoir une connotation un petit peu magique, fantasmatique. Par exemple, le Wabash Cannonball, c'est un train mythique, c'est le train imaginaire qui va où on voudrait qu'il aille. Pas mal ça.
Quel rêve.
Et maintenant, nous retournons dans le sud.
Avec quelque chose de bien particulier.
Miam.
Et oui, parce qu'il faut savoir que les rues étaient pleines de petits marchands ambulants. De toutes sortes, qui vous vendaient depuis le balai jusqu'à des nourritures diverses. Et là, Eh bien, c'est le marchand de gaufres. Il est dans la rue, avec son espèce de grande poêle, où il fait sauter des gâteaux aux fruits.
Quelquefois, remarque, quand il est plus riche, il a carrément des moules à gaufres.
Oui, oui, mais c'est le plus simple. Et pour se signaler, bien sûr, il ne va pas crier toute la journée. Tout simplement, il a un bugle et tap, 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 tap. Voilà.
Voilà, et il envoie une petite sonnerie codée extrêmement criarde, d'après les gens qui l'ont entendu. Et naturellement, comme nous sommes à Nouvelle-Orléans, il en est sorti un morceau de musique qui s'appelle...
The Wafflesman Call, c'est-à-dire l'appel du gaufrier, en gros, c'est ça.
Ah oui, là, c'est un orchestre de la Nouvelle-Orléans, mais un orchestre blanc qui va nous jouer ce morceau. Et vous allez remarquer, parce qu'il y aura d'autres orchestres blancs dans cette émission, que les souffleurs, en particulier les trompettes, qui s'appelle Johnny Beiersdorfer, les souffleurs, ils ont quelque chose qu'ils ont bien attrapé de la musique noire. Mais que les rythmiciens, ils sont d'une raideur terrible. Et c'est ça, finalement, qui fait la grande différence entre les deux approches de cette musique-là. C'est la qualité de souplesse ou pas de la rythmique.
Je voulais juste rajouter, pour les hommes et les femmes qui font de la cuisine, que nous tenons à leur disposition la recette des gaufres aux fruits de ce monsieur, l'homme aux waffles. Ce qui frappe dans le jazz, et en particulier dans les titres du jazz, c'est qu'ils sont souvent extrêmement proches de la vie quotidienne de ces gens-là. Vous voyez, il y avait le cri du vendeur de gâteaux. Et là, on va vous parler d'un événement qui tient à toute la Nouvelle-Orléans en haleine.
Oh, bah plus que ça, même.
Et même plus que ça, c'est une course de bateaux sur le Mississippi.
Il y a eu une sorte de défi et... il ne s'agit pas de bateaux de course, il s'agit de riverboat, vous savez,
les bateaux à roues à aube.
Les bateaux à roues à aube avec ces deux grandes cheminées, langue à vapeur. Et
voilà. Ça, c'est pas que ça va à une vitesse faramineuse, mais alors par contre...
Ouais, mais attention, ça marchait au charbon et ça enfournait dur. Si vous voulez avoir une idée de ce à quoi ressemblaient les riverboats la nuit, vous descendez d'Allanche sur Neussargues et à un moment donné, en arrivant à la hauteur de Moissac, vous allez voir en face de vous deux cheminées avec des flammes, deux cheminées jumelles, c'est du charbon de bois qu'on fabrique là, mais quand on arrive comme ça, paf, la nuit, ça a soudain une allure de riverboat, c'est tout à fait curieux. Bon, je vous dis ça pour ceux qui font des routes du Cantal. Hein. Cette course mettait face à face le Robert E. Lee, premier bateau.
Et alors, Robert Lee, c'est le fameux général Lee qui a fait la guerre de sécession, qui l'a d'ailleurs perdue.
Bon, après, ils sont tous raccommodés, de toute façon.
Enfin, oui, et puis surtout, bon, il restait quand même quelques souvenirs, et le général Lee, dans le sud, était très aimé. Hein. Bon.
Et l'autre bateau, qui existe d'ailleurs toujours, rafistolé, restauré, mais enfin, il flotte. Hein.
C'est le Natchez.
Célèbre Natchez. La course a duré plusieurs jours parce qu'elle allait de la Nouvelle-Orléans à Saint-Louis.
Alors, c'est vous dire que le long des rives, il y avait un monde fou sur tous les points de vue. On pouvait voir la course des bateaux.
Ah oui, il y avait des milliers de gens.
C'est là que le vendeur de gaufres faisait ses affaires, probablement.
Ça, il n'y a aucun doute sur la question. Et il y a eu des paris absolument faramineux qui ont été faits sur cette course.
Et oui, il y a toujours un pari quelque part.
Je ne sais pas si j'ai dit que ça avait eu lieu en 1870, c'est vous dire.
Alors, qui a gagné?
Eh bien, c'est le Robert E. Lee qui a gagné avec une bonne avance. Et tu veux savoir combien de temps il a mis pour gagner?
Je sais que c'était un long temps.
Ah oui, 3 jours, 18 heures et 14 minutes. À l'époque, on n'a pas compté les secondes.
Bon, d'accord.
Je crois que cette course n'a jamais été renouvelée. Je ne suis pas certain que les bateaux soient arrivés au bout dans un état de fraîcheur extraordinaire.
Oui, parce qu'il faut savoir que quelquefois, si on bourrait trop pour aller plus vite, eh ben, les chaudières, elles explosaient.
Et ça pouvait arriver. Enfin, vous lisez Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne et des choses comme ça dedans. Alors, l'orchestre qui joue ça, c'est un orchestre blanc également d'ailleurs, de la côte ouest des États-Unis, un orchestre californien dirigé par le tromboniste Turk Murphy, un orchestre très célèbre. Et nous avons déjà parlé des orchestres blancs et des orchestres noirs, je ne reviens pas dessus, vous allez apprécier. Il y a un fameux trompettiste hein, qui s'appelle Bob Scobie. Thank you.
va faire un grand saut dans le temps, puisqu'on va arriver en 1929. Vous savez que dans notre émission, on donne rarement des dates vraiment précises, parce que ce n'est pas forcément intéressant. Mais là, il y a quand même un intérêt. 1929, je pense que ça vous dit quelque chose.
Ah oui, c'est la grande crise et ça commence par un krach boursier qui s'est passé à la bourse de New York, laquelle se trouve à
Wall Street. Et alors évidemment, ça a été une catastrophe pour l'Amérique, mais ça a été aussi une catastrophe pour l'Europe, parce que l'Europe et l'Amérique, peu à peu, étaient très liées, comme nous le sommes d'ailleurs maintenant, hein, tout ce qui est finance.
Disons d'ailleurs, je te ferai remarquer que la crise que nous subissons, qui n'en est plus une tellement elle dure, elle vient quand même d'Amérique au départ.
Et oui.
Et des liens qui nous unissent. Et ce crash, il est arrivé en Europe, il a mis 1 ou 2 ans, quelquefois 3, mais ça a été assez terrible comme conséquence pour bien des entreprises. Et là, 2 mois après le crash, Duke Ellington a écrit un morceau ambigu qui s'appelle...
Une sorte de jeu de mots, hein. Wall Street Wail, c'est-à-dire la plainte de Wall Street. En gros, c'est ça.
Mais ça veut aussi dire le swing, parce que whale, ça veut dire swing et swinger. To wail, c'est swinger en argot jazz.
Ce qui veut dire non seulement se plaindre, mais essayer de rebondir quand même, enfin bon.
Il y a tout un commentaire à faire. L'exégèse nous guette, mais comme nous ne sommes pas à France Culture, nous ne la ferons point. Place à la musique par Duke Ellington et son orchestre.
Wall Street Wail.
Monsieur Ellington, ça va très très mal. Vous ne pourriez pas nous composer un morceau optimiste sur cette affaire de Wall Street ? Voilà, bah écoutez, c'est sans doute ce qu'il a fait, à moins qu'il l'ait composé avant le fameux crash.
Sait-on ?
De toute façon, c'était un morceau pétulant et optimiste de Duke Ellington. Et les hasards du dictionnaire nous font rester chez Duke Ellington, qui aimait beaucoup les femmes, comme chacun sait.
Oui, ces femmes s'en souviennent, parce qu'il en a eu beaucoup.
Et voilà pourquoi le morceau qui suit est une sorte d'hommage, s'appelle
Warm Valley. Il faut quand même traduire ce que ça veut dire, la vallée chaude. Bon, voilà. D'accord. Mais
écoutez, nous n'en dirons pas plus parce que c'est vraiment pas la peine. De toute façon, c'est un très beau morceau. Le morceau suivant nous emmène dans la grande histoire des États-Unis d'Amérique.
Et oui, parce que contrairement à ce que les Français ont l'air de vouloir croire, l'Amérique a une histoire.
Oui, l'Amérique a une histoire. Et le morceau qui vient d'ailleurs nous renvoie à George Washington lui-même, le fondateur des États-Unis.
Il a également été, non pas le fondateur d'un collège, parce qu'il s'agit d'un morceau qui est l'hymne d'un collège.
Fondé en 1749.
Voilà. Et alors, il a eu plein de noms différents, mais Washington s'est intéressé à ce collège et à l'éducation en général. Il a fait une très grosse dotation à ce collège qui, du coup, après avoir eu, comme je vous l'ai dit, plusieurs noms, s'est appelé Washington College.
Et tu sais que s'il s'agissait de 50 000 dollars...
Quand même,
hein, oui. En 1796...
Oui, c'était une somme. Hein.
Et puis on peut ajouter que tout ça se passait à Lexington, dans la Virginie.
Et puis, de longues années passent, et finalement, il y a la guerre de sécession. On en a parlé tout à l'heure à propos du bateau avec le général Lee. Et le général Lee, on le retrouve encore une fois, et lui aussi va s'intéresser à ce collège.
Bah, tu parles, il va devenir président du collège.
Absolument. Et du coup... Très naturellement, les organismes du collège vont appeler ça Washington and Lee College.
Et ça, c'est en 1871. Et c'est parce que sous son impulsion et sous sa présidence, le collège en question a connu une expansion considérable, est devenu une vraie université. Comme tout ça est très connu, l'hymne de ce collège est devenu également une possibilité de morceaux de jazz et les musiciens ne s'en sont pas privés. Et là, nous allons confier cette exécution un musicien très peu connu d'ailleurs, remarquable tubiste, là les joueurs de tuba peuvent ouvrir leurs oreilles. Il s'appelait Singleton Palmer, il était de Saint-Louis, et nous vous signalons que nous avons trouvé ce morceau de musique après des années de recherche au fin fond d'un site, du fin fond des sites américains, un des sites consacrés à la bonne ville de Saint-Louis, et je peux vous dire qu'on était drôlement contents de trouver ça. C'était même pas un morceau à part, c'était dans une conférence qui a été enregistrée. Vous vous rendez compte jusqu'où on va pour la planète du jazz, hein ?
C'est vous dire que nous cherchons, nous grattons.
Avidement. Comme chacun sait, Washington a été également le nom qu'on a donné à la capitale fédérale, la bonne ville de Washington, qui est dans un district indépendant qui s'appelle le District of Columbia.
Et c'est là qu'est né Duke Ellington, quand même.
Et de temps en temps, dans le répertoire d'Ellington, il y a un hommage à sa ville natale. Et là, c'est une sorte de danse qu'on pourrait d'ailleurs assimiler à une danse de chez nous.
Oui, puisqu'il s'agit d'une danse un peu chaloupée, puisque ça s'appelle Washington. Wobble. Et nous avons chez nous une danse qui s'appelle la chancelade. C'est un petit peu pareil. C'est une danse qui doit se danser tendrement.
C'est une valse où on oscille un peu. Hein,
voilà.
Où on chaloupe. Et ce Washington Wobble, finalement, d'ailleurs, c'était une sorte de danse qui a ressurgi beaucoup plus tard après la mode du twist. Curieux, hein.
Oui, c'est bizarre. Curieux. Hein.
En tout cas, ça remonte bien avant le twist, c'est vous dire. Et c'est même un des tout premiers enregistrements de Duke Ellington, et on y entend en particulier le fameux trompettiste Bubber Mailey. voici maintenant avec Big Bill Brunzi sur la Water Coast. La Water Coast, c'est la côte du sud des États-Unis qui va du Texas au Mexique. C'est un très bel endroit, très pittoresque, plein de petits lagons, de petites îles, de bancs de sable, d'arbres, de bayous, de tout un tas de choses. Et c'est un endroit assez prisé. Mais naturellement, c'est pas tout à fait le propos de Big Bill, qui est plutôt là dans le registre souvenirs émouvants.
L'enregistrement que vous allez entendre, c'est pas dans un studio, c'est dans un cadre complètement différent. C'est un cadre amical, je dirais presque familial, car il y avait deux grands amis dans la vie, Big Bill Brunzi et Yannick Brunog. Yannick Brunog, il est blanc, il est belge.
Il habite Uccle,
qui est un beau quartier de Bruxelles. Et il y a des sortes d'amitiés comme ça qui durent toute la vie, avec des moments où, parce que c'était des musiciens, c'était des voyageurs, hein, ils se voyaient très peu. Mais dès que l'un n'était pas trop loin, il courait vite chez l'autre. Et bien, c'est ce qui s'est passé avec Big Bill Brunzi et Yannick Brunog. Et cet enregistrement, il a été fait chez Yannick Brunog.
Dans un grand salon que nous avons connu à l'époque et qui était sur un de ses murs totalement tapissé de 78 tours qui, au grand scandale de tous les collectionneurs qui passaient par là, étaient rangés verticalement et non horizontalement.
Quelle horreur !
Je ne sais pas si vous voyez. J'aime bien qu'on évoque Yannick Brunog dans cette émission parce que c'était pour moi un des grands hommes, un des grands promoteurs du jazz en Europe, comme Johnny Simmel en Suisse, comme Panassier en France. Et tous ces gens sont partis maintenant et on se rend compte avec le recul de l'importance qu'ils ont eue dans le développement de la musique de jazz. Water Coast Blues.
I've got one out on water cold. Yes, I've got a gal down in Dallas. Still, I've got one out on water cold. Yes, sometime I get to wondering which one of them little gals that I love the most. Hear me sitting down here in Brussels. Still I've got Houston on my mind. Now, hear me sitting down here in Brussels. Still I've got Houston on my mind. Yes, sometime I get to thinking, baby, and I just can't keep from crying. Yes, I love my baby. Lord, but my baby, she won't behave. Yes, out of cloud love, my baby. Love, but my baby, she won't behave. Yes, I'm gonna get me a hard shooting pistol. I'm gonna put that woman down in a lonesome grave. Mm-hmm.
très émouvant, ce blues de Big Bill Brunzi.
Ouais.
Et chose très curieuse, il est mort d'un cancer au larynx, quelques années après.
Et Yannick Brunog est mort de la même chose. Il y a des sortes de gémellités étonnantes. Hein.
Oui.
C'est un peu horrible à dire, d'ailleurs.
Enfin, longtemps après, quand même, il est mort.
Oui,
il y a une bonne distance entre les deux, mais quand même, c'est assez frappant. Nous vous signalons, si vous faites des recherches sur Internet, que le livre Big Bill Blues est un fabuleux bouquin, un des plus beaux sur le blues, un des plus intéressants aussi. Ce sont les mémoires de Big Bill Brunzi que Yannick Brunog avait été capable presque de lui imposer, parce que Big Bill ne voulait pas écrire. Il se considérait comme un personnage sans intérêt. Et là, Brunog l'a presque obligé à écrire ce bouquin qui est magnifique. Si vous le trouvez sur Internet, n'hésitez pas, vous ne perdrez pas votre temps. Et même, vous êtes un sacré vénard ou une sacrée vénarde, parce que comme vous ne l'avez pas encore lu, vous aurez le bonheur de le découvrir. Je vous envie. Un autre blues joué au piano par Count Basie est juste sa rythmique. Hein, on le connaît pour son grand orchestre, mais là, c'est le pianiste avec sa rythmique. C'est formidable blues qui s'appelle...
Way Back Blues. Ça veut dire en gros tout ce que la vie m'a appris. Way Back, c'est le chemin d'avant, voyez. Je vous le traduis en direct, mais ça veut dire l'expérience. Ça veut dire tout ce qu'on a appris au fur et à mesure de sa vie.
L'habileté.
Oui,
par exemple.
Pour un musicien, l'habileté aussi.
L'habileté. Tout ce que la vie vous apporte quand vous la prenez par le bon bout. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis ça désigne aussi, là un peu subsidiairement, une sorte de réminiscence. Mais là nous sommes quand même dans une sorte de tout. Et je pense qu'ils ont baptisé ce blues quand ils l'ont eu enregistré. Ils ont dû se regarder, se dire comment on va appeler ça. Et finalement, ils avaient tellement bien fait la synthèse de tout ce qu'ils savaient faire. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Way Back Blues. À vous de juger. Thank you. nous allons terminer cette émission en revenant à Duke Ellington, décidément.
Et oui, avec les W, oui, hein, on ne sait pas pourquoi, mais bon.
Le morceau s'appelle Willie, et en fait, c'est le surnom d'un autre musicien qui travaillait avec lui de manière très proche, qui était...
Billy Strayhorn, et qui avait deux surnoms. Willie, et puis un surnom tout à fait amusant, puisqu'on l'appelait Sweet Pea, ce qui veut dire petit pois...
Gentil petit pois.
Gentil petit pois, tendre petit pois. Parce qu'il n'était pas bien grand, oui.
Alors, figurez-vous que Ellington a entendu Billy Strayhorn, qui était un très bon pianiste et chanteur, chanter des paroles à lui, sur un répertoire à lui, dans une boîte à Pittsburgh. Et il l'a tout de suite pris comme collaborateur, il l'a proposé immédiatement, parce qu'il a trouvé qu'il avait quelque chose. Et en fait, il l'a engagé comme parolier au départ. Et Strayhorn, en fin de compte, est très vite devenu le collaborateur musical.
On se pose la question quand même, on se dit, mais pourquoi Duke Ellington, qui est un merveilleux pianiste, a-t-il besoin d'un autre pianiste ? Eh bien, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'au départ, il n'a pas du tout engagé comme pianiste.
Non, mais ça s'est très vite transformé autrement. Nous qui avons vu l'orchestre d'Ellington au travail, on a connu le rôle que Strayhorn jouait là-dedans. C'était un collaborateur, mais c'était vraiment les deux doigts de la main, musicalement parlant. C'était incroyable.
Et en plus, il y avait une espèce de façon d'être totalement différente l'un de l'autre. Duke, c'était... Le duo. Il occupait tout l'espace, grand, beau, aimait des femmes. Puis il y avait le petit Billy Strayhorn, toujours discret, toujours souriant, tout rond.
Tout rond, enfin plutôt rondouillard, c'était pas gros.
Oui, c'est
vrai. Mais il avait un regard d'intelligence extraordinaire. Et à côté de son grand homme, qui était donc royal finalement, comme bonhomme, c'était un duo assez étonnant. Et nous les avons vus au cours d'une séance d'enregistrement, se relayer au piano. C'est-à-dire que les discographes ont dû être bien ennuyés pour mettre un nom plus tard sur ces morceaux, parce que ce que jouait Strayhorn au piano, c'était de l'Ellington, enfin, à s'y méprendre totalement.
Et quand Duke était fatigué en répétition, c'était Strayhorn qui prenait le piano. Intéressant, non ?
Oui, et même en concert, on a vu ça, il le laissait le piano comme ça. On aimait beaucoup entendre Strayhorn aussi. Enfin, en tout cas, voici son portrait musical par le Duke lui-même, sorte d'hommage, peu après qu'ils aient commencé ensemble, et peu avant que Strayhorn ait composé ce qui devait devenir l'indicatif du Big Band d'Ellington, c'est-à-dire le fameux Take the A Train. Là, on est juste avant, et ça s'appelle donc...
Willie. C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.